Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de Torréfaction, le 116e si je dis pas de bêtises. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Tous les vendredis matins à 8h, on fait le tri dans l'actu de la semaine, qu'il s'agisse de gaming, d'app, de culture, de tech. Et on fait ce tri et cette petite sélection avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Faskil, comment ça va?
Ça va, et je crois que les gens veulent savoir, ça en est où ces histoires d'inondations là?
La fuite est maîtrisée, je répète, la fuite est maîtrisée, le Titanic a évité l'iceberg. Mais comme quoi, faites attention les amis, un joint peut vous niquer 5 apparts d'un coup, grâce à une petite, à la petite fuite dans le coffrage de la baignoire de quelqu'un qui s'en occupe pas.
Oui.
Et donc voilà, moi je suis au premier étage, j'ai eu des gouttes dans mon plafond, la fuite était au troisième, je vous laisse imaginer la gueule des faux plafonds, des
pas mal.
Différentes cloisons et tout. Bref, c'est magnifique. L'eau, c'est pratique au robinet, mais il faudrait que ça reste dans les robinets tout le temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Allez, on attaque tout de suite le sommaire de ce 116e épisode et on va partir du côté du gaming avec des news de Teamfight Tactics.
Ah oh là là, TFT, la partie copie classique. Hein. Vous savez, Riot, ils ont pas beaucoup d'imagination, mais ils sont très forts en réalisation. Donc, ils ont copié la mode des auto-chess quand auto-chess est sorti en mode chez nos amis de Dota 2. Et puis, évidemment, c'est devenu Dota Underlords, qui est la meilleure version. Jouez à Dota Underlords, s'il vous plaît. Mais en France, comme d'habitude, c'est LOL le maître. Donc, quand ils ont rajouté TFT à l'intérieur même du client de League of Legends, ce qui était très malin pour avoir plein de clients d'un coup, évidemment, ça cartonnait. Le problème, c'est que Dota Underlords et auto-chess, ce sont des titres qui sont dispo depuis le départ en mode mobile. Et puis, ce sont des titres, des styles de jeu qui s'adaptent assez bien à des écrans relativement petits, même si j'avoue que c'est quand même bien plus sympa sur un iPad que sur un téléphone, hein, faut pas se mentir. L'échiquier est bien petit sur téléphone. Et du coup, ils ont annoncé, ça y est, la date de sortie. On savait, hein, depuis le départ qu'ils allaient arriver sur mobile. Donc, ça va débarquer en mars 2020, donc c'est après-demain, hein, ça va venir vite. Comment ils ont adapté l'interface, etc., au mobile, on ne sait pas encore ça, il y a très peu d'infos. Je vous ai linké un papier de Polygon qui a la vidéo de dev, vous savez, ils font des devlogs régulièrement chez Riot où ils ont lâché l'info pour expliquer quand est-ce que ça allait arriver, etc. Il y a quelques informations sur ce qu'ils essayent de ne pas rater pour cette version. Évidemment, c'est en anglais, hein, toutes mes confuses. Et on apprend surtout que l'interface, évidemment, elle n'est pas du tout adaptée à l'écran mobile de base, donc il va falloir qu'ils la retravaillent. J'ai envie de dire, l'interface de TFT, même sur PC, ça reste quand même une grosse blague. Je l'aime pas du tout, au cas où vous auriez pas compris. Depuis que je parle de TFT, généralement, je mets un petit taquet à l'interface. Alors, ils y travaillent, ils améliorent des choses, mais je pense qu'il manque encore beaucoup, beaucoup de choses. Je comprends pas qu'on ait pas un récap direct quand on appuie sur la touche tab, comme dans Dota Underlords, par exemple, mais que nous avons aussi dans Auto Chess, même dans le mode de Dota 2 Auto Chess, qui est la base de tous ces styles de jeu, l'interface qui est pourtant pas fantastique, je la trouve plus pratique pour voir exactement ce qui se passe, qui fait quoi et essayer de pas partir sur les mêmes compos, etc. Donc voilà, en tout cas ça arrive, évidemment ça va générer des millions, évidemment que tout le monde va l'installer parce que voilà, c'est Riot, hein. Je pense que cette année ils vont faire très très fort. Vous pouvez aller découvrir tout ça avec le petit billet que j'ai linké.
Allez, on passe à Pascal's Wager. C'est quoi donc ça?
Alors, c'est un nom bizarre déjà.
Oui.
Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite boîte qui a décidé de faire un mix de Bloodborne, de Dark Souls, le tout sur iOS.
Okay.
Et quand tu l'annonces comme ça, tu te dis, oh bah, ça va être bien de la merde quand même. Hein. Mais n'en soyez pas si sûr, parce que du coup, moi, je l'ai vu passer mais complètement par hasard dans mes feeds RSS. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est donc que ça? C'est un titre qui est vendu à un prix presque normal entre guillemets pour un jeu vidéo mobile, mais pas c'est pas 2€ quoi, parce que les mecs il y a du taf derrière et les gars sont là pour gagner de l'argent. Donc chez nous il est vendu 8€. Alors 8€, tu te dis bon bah là j'en veux pour mon argent. Bah a priori vous allez en avoir, parce que moi j'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup, mais toutes les reviews sont excellentes. Il y a pas mal de monde en fait qui a eu accès au jeu bah, en accès anticipé, tout bêtement, en bêta, un petit peu comme on a dans les jeux PC habituellement, pour pouvoir y jouer avant et donner notre avis quand ça sort. Là, ils ont été un petit peu efficaces, donc il y a pas mal de gens qui avaient testé la bêta et qui sont dit tyrambique, dans le sens où bah, ça ne crache pas. C'est assez beau et il y a pas mal de bonnes idées. Alors, on est évidemment dans un action RPG, dans un univers fantastique bah, ténébreux, hein, je vous dis, on est vraiment dans le Bloodborne-like. Ils ont rajouté pas mal de petites choses au style, dans le sens où on joue en permanence, enfin en permanence, je vais pas tout spoiler, mais on joue quatre personnages en fait dans le jeu, avec des styles de combat très différents, donc tu peux switcher de l'un à l'autre. Il y a évidemment une gestion des morts qui est en relation avec ces quatre persos, donc tu peux switcher leurs compétences, tu peux switcher, avoir ton perso préféré, essayer de le garder en vie le plus longtemps possible, entre guillemets. Bon bref, ils ont fait un truc qui est assez sexy, et tout le côté 3D, etc. est vraiment bien fichu. Évidemment, quand tu veux faire un Bloodborne-like avec un écran tactile, tu te dis bon bah la jouabilité ça va être de la merde, il n'y en a pas le choix. Non, je ne suis pas d'accord. La jouabilité reste correcte. Ce qui va se passer, c'est que on est sur un titre qui se débrouille avec l'écran tactile, mais où tu as vraiment besoin d'avoir un pad si tu veux vraiment vraiment profiter du jeu. Et je vous rappelle que maintenant tous les pads sont gérés dans iOS, donc vous pouvez même poser votre téléphone contre une bouteille de flotte et puis jouer avec un pad. Je sais, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais ça fonctionne et c'est ce que je vous conseille de faire, parce que sinon vous allez vraiment être frustré, surtout quand vous allez avancer dans le jeu. Après, il est prévu pour être terminé avec les parties tactiles, mais je préfère prévenir les gens tout de suite. Alors après, il y a toute une histoire, je vous laisse ouvrir la page du jeu dans le store iOS, vous aurez toutes les informations. Évidemment, il est question de soleil qui sombra jadis dans les océans, enfin des trucs, tu vois, genre c'est triste, tu vois, on est dans un monde où ça se passe pas bien, les gens sont pas contents, mais on s'en fout un peu, le but du jeu c'est d'aller voir un petit peu comment ça se passe, et si ça vous intéresse, il y a une vidéo de présentation, je vous ai linké un post qui fait le test chez nos amis de Macworld, toujours en anglais, je suis désolé, mais la page française évidemment contient, enfin du store contient toutes les informations dont vous aurez besoin, et a priori, bah, ça mérite clairement ces 8 balles, je sais pas du tout s'ils ont prévu de faire des DLC, etc., mais on sent bien que les mecs se sont inspirés de classiques du genre, et j'espère qu'ils ont été au taquet. En tout cas, évidemment, si vous avez un iPad Pro 13 pouces, enfin 12,9, pardon, c'est un petit peu le jeu idéal pour tester votre bécane et voir si ça chauffe ou pas. A priori, c'est plutôt bien optimisé.
Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus parlé, c'est le grand retour de PUBG dans Torréfaction.
Ouais, la saison 6, la saison qui évidemment fait râler tous les gens qui étaient habitués à la saison 5, ou d'habitude, à chaque fois qu'ils rajoutent quelque chose dans PUBG, il y a des gens qui râlent. Sur Geekzone, on a des noms, on a des classiques, ils font « bah oui, bah c'est toujours de la merde !» Parce qu'on a des gens qui sont un petit peu frustrés de PUBG, et à raison, hein, il y a plein de trucs qui... Bon, on va dire que l'évolution du gameplay et de la technique autour n'est pas toujours extraordinaire, bon, je comprends que des gens soient frustrés, mais là, il se passe encore pas mal de choses et ils lâchent absolument pas l'affaire. Donc, on a déjà une nouvelle carte qui arrive, qui s'appelle Karakin. Alors, c'est une carte un petit peu spécifique, on dirait une Miramar sauce Sanok.
C'est celle où tu peux péter les environnements, c'est ça?
Voilà, alors il y a plusieurs choses qu'ils ont rajoutées, mais donc déjà en termes de taille, on est plus sur une carte de la taille de Sanok d'habitude, mais on est dans un univers désertique, et là vous allez flipper, parce qu'il y a évidemment des buildings partout, donc vous allez vous dire, ah ça va être la merde, mais non, ils ont changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, puisque là, déjà, c'est une carte qui est faite pour être jouée à 64 joueurs, et ensuite, il y a des zones entre autres, il y a les zones rouges classiques, si tu veux, qui te fait flipper, mais bon, si tu es dans une maison, tu t'en fiches. Mais là, il y a des zones noires. En fait, les zones noires, ça va être un truc un peu plus compliqué que ce qu'on avait d'habitude, puisque en fait, ça va balancer des bombes sur les bâtiments, mais ces bombes vont les exploser. Donc, tu peux complètement te faire flinguer dans un bâtiment. Donc, la zone, n'y restez pas, les gars. C'est aléatoire, mais il faut pas être là quand ça tombe. Puisque là, c'est vraiment le tir de mortier, les bâtiments qui explosent, les murs qui s'écroulent, c'est le bordel. Ils ont rajouté aussi des murs à travers lesquels tu peux tirer. Bon, tu les repères assez facilement. Hein, c'est les trucs en bois, tu sais, les cloisons où on te dit, tiens, vas-y, peins ici parce que là, c'est moche. Si un mec se planque derrière, tu peux tirer à travers, le flinguer, c'est assez jouissif. Enfin, je dois le dire, ils ont rien inventé. inventé, hein. Ça existe dans plein d'autres FPS, mais dans un Battle Royale, forcément, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont rajouté des sticky bombs, qui sont rigolotes, hein. C'est des petits packs de C4 avec un petit téléphone mobile, tu as un bon vieux Nokia 3310, j'ai l'impression, qui est dessus, et vous pouvez foutre ça sur certains murs de briques et les péter pour vous faire des nouvelles entrées dans les bâtiments. Alors, attention, déjà, ça explose, donc ça fait du bruit, donc les gens savent que vous êtes là, et en plus, il y a une espèce de tit-tit-tit qui te prévient que ça va péter, en fait, tu vois, c'est quand il reçoit le coup de fil. Mais bon, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vous ai linké toute la... j'allais dire la playlist. Je vous ai linké toute la patch note de cette version sur le billet qui accompagne le podcast. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux trucs. Il y a un nouveau véhicule, il y a le motoplaneur, donc, hein, c'est un deltaplane avec un tricycle en dessous, donc on peut se barrer et se balader dans la carte. C'est des trucs qui sont un petit peu nouveaux. Ça, c'est disponible sur Air Angel et Miramar, ce qui sera plus pratique pour se déplacer dans ces cartes qui sont assez balèzes. Normalement, il y en a 10 par carte qui se matérialisent dans 40 zones potentielles à chaque partie. Je sens que les mecs, il va y avoir des campeurs de ces zones. Ça va être très très clair, surtout pour les tester. La nouvelle carte, je vais te préciser, elle n'est pas dispo sur le serveur officiel pour l'instant. On n'est que sur le serveur de test, mais vous pouvez l'installer dans Steam hyper facilement. Et ils ont rajouté un nouveau lance-roquette. Enfin, il y a plein de petites nouvelles choses. Est-ce que ça fera changer d'avis les gens qu'on avait marre? Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui étaient sont plutôt clients de PUBG, vous devrez revenir au moins tester toutes ces nouveautés. Moi, je sais que j'ai envie d'y retourner, mais j'ai pas envie de réinstaller le client parce que je suis une grosse feignasse. Donc, je vais attendre que ça sorte sur la version officielle et voir ce que ça donne. J'espère que l'ajout de cette nouvelle map va pas étendre les files d'attente pour pouvoir jouer peinard sur les anciennes si vraiment on a envie de se faire un bon vieux Air Angel, par exemple. Non, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, les mecs sont toujours à donf dessus. J'espère qu'ils ont réglé leur problème de serveur. On a eu des semaines complètes là pendant les fêtes de Noël avec des paquets loss incroyables. Donc, t'avais tendance à mourir alors que t'étais planqué derrière un mur. On avait des désynchros qui étaient assez chelous et qui sont pas du tout pardonnables sur ce genre de titre. Hein, où c'est clair. Tu voudrais que ça soit un petit peu précis. Donc voilà, si vous avez toujours le jeu sous la main, c'est le moment de le dépoussiérer en tout cas et d'aller voir ce que ça donne.
Voilà, et si vous voulez le dépoussiérer, vous pouvez venir le faire avec nous sur Discord. Il y a un lien sur la homepage de geekzone.fr si vous voulez venir jouer, que ce soit à PUBG ou à d'autres jeux d'ailleurs. Hein. Ça joue pas mal en fait.
Et rire de notre skill.
C'est ça aussi. Allez, on termine cette section gaming, mais c'est pas vraiment du gaming, enfin un petit peu quand même, avec Wolfenstein Youngblood.
Alors, Wolfenstein Youngblood, oui, on en a pas vraiment parlé parce que c'est pas la meilleure entrée dans le monde de Wolfenstein qui est sur le marché, mais il se trouve qu'elle a été mise en avant cette semaine parce qu'il y a un gros patch qui est sorti avec notre ami Nvidia derrière qui va en fait servir de test pour plein de nouvelles fonctionnalités qu'on trouve dans les Nvidia RTX. Alors, je vais pas toutes vous les faire parce que déjà, il y a des trucs qui sont pas du tout, comment dirais-je, explicables avec ma voix. Certes, vous aimez nos voix, mais il y a quand même des limites pour vous montrer des trucs en 3D.
Peut-être juste rappeler que le RTX, c'est du ray tracing, c'est ça?
Ouais, en fait, c'est le nom de la nouvelle gamme, mais c'est à la base, c'est ce qui englobe toute leur nouvelle technologie de ray tracing. Mais là, il y a aussi du variable ray shading, il y a de l'advanced image reconstruction, il y a plein de trucs hyper rigolos. Du coup, j'ai laissé ça à des professionnels. Je vous link le papier d'Eurogamer qui s'est tapé de faire une énorme vidéo sur le sujet. Eurogamer, actuellement, ils ont un des meilleurs channels qui explique les techniques graphiques disponibles sur le marché. Il faut évidemment dépoussiérer votre anglais pour bien en saisir toutes les subtilités. Mais là, du coup, juste, même si vous comprenez pas tout, juste en regardant les images, c'est assez évident qu'il y a des intérêts au RTX. On s'est beaucoup, 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 beaucoup moqué du RTX avec nos mêmes RTX. On, RTX off, et ce genre de conneries. Bon, là, et le but du jeu, c'était de montrer que ça pouvait quand même vraiment avoir un impact sur l'ambiance du jeu, sur la qualité des graphismes, ça, on n'en doutait pas, et donc de regarder un petit peu ce que ça peut donner quand c'est vraiment fait correctement. Il y a un autre exemple avec Control aussi, qui montre beaucoup, beaucoup de choses. Moi, ma problématique avec ça, effectivement, c'est très joli, il y a des trucs très sympas, je vous confirme que vous verrez pas grand-chose dans un FPS un peu rapide, puisque généralement, on fait pas trop attention à ce qui se passe autour, et on regarde regarde pas si la lampe elle est joliment en train d'éclairer normalement le mur d'à côté. Donc bon, oui c'est joli, mais c'est pas forcément les jeux les plus adaptés pour t'en mettre plein les mirettes, ou en tout cas pour apprécier le paysage. En tout cas là, le but c'était de montrer qu'il y avait des avancées réelles. Les démos qui avaient été faites avec Tomb Raider par exemple les derniers étaient intéressantes, mais pas forcément très parlantes. Là ils en mettent une couche, et je pense que bon bah voilà, ils sont dans leur période, on prend un marteau et on tape sur le clou pour que ça rentre, pour que les gens comprennent que si c'est vachement bien, mais vous aviez pas bien vu au départ. Ce qui est pas complètement faux. Maintenant, l'intérêt en termes de gameplay reste extrêmement discutable. En revanche, là, techniquement, quand vous regardez les images, il y a pas photo. Oui, c'est vachement mieux en RTX, et l'impact sur les performances du jeu sont relativement gérables quand tu fais pas n'importe quoi. Donc voilà, je vous laisse aller digérer tout ça, et il y a deux vidéos à ne pas rater. Et franchement, vous allez voir, les exemples sont quand même assez parlants.
Allez, on passe du côté des apps. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait. On savait que c'était dans le pipeline. Ça y est, c'est officiel maintenant. Microsoft Edge est passé sous Chromium.
Eh ouais, adieu, bye bye, le bon vieux Microsoft Edge avec son moteur maison 100% qui était pas si mal, mais qui avait, c'était beaucoup de travail pour Microsoft pour suivre les évolutions de nos copains farceurs de chez Google. Donc du coup, cette fois, ils ont décidé de tout virer, de tout passer sous Chromium. On en avait déjà parlé. Du coup, ce qui est un avantage pour eux à terme, c'est que cette version est déjà déclinée sur Windows, certes, mais aussi sur Mac en bêta, sur Linux, je pense que c'est prévu, et on a aussi les versions dispo de Edge pour iOS et notre ami Android. Donc du coup, le but, c'est évidemment de faire un navigateur qui est disponible partout, qui synchronise comme les autres à peu près partout, que ça soit du côté des extensions quand elles sont compatibles, ou surtout vos onglets, etc. Le but, c'est que vous puissiez naviguer, reprendre une navigation, quel que soit le device que vous avez sous la main. C'est ce qui est hyper agréable, c'est un des gros selling points d'utiliser Safari sur Mac et sur l'écosystème iOS, c'est que c'est désynchronisé en permanence de très belle manière. Firefox a fait beaucoup d'efforts de ce côté-là, utiliser Firefox. Non, je rigole, mais Mozilla vient de virer 70 personnes, mais si jamais eux, ils disparaissent du marché, ça va pas nous
c'est
faire
la merde.
Rire.
Ouais.
Voilà, parce que je vous rappelle que ce sont les derniers, vu que Microsoft avait son propre moteur de rendu. Maintenant, il ne reste quasiment plus que Firefox d'un côté et le moteur de Safari WebKit, qui d'ailleurs a été la base de Chromium, qui est techniquement d'ailleurs toujours la base sur plein d'éléments. Mais bon, bref, je ne rentre pas dans les détails techniques. Il faut supporter notre petit ami Firefox, et le fait finalement que Microsoft fasse sa propre version, donc ce Edge sous Chromium, c'est une bonne nouvelle. On aurait préféré en fait qu'ils mettent les bouchées doubles avec leur propre truc de leur côté, sauf si vous êtes développeur web, parce que ça faisait un truc de plus à tester, je sais
que j'allais dire, ça va pas les faire marrer, ouais.
Ouais, mais eux, ils voudraient que tout soit fait sous un truc et basta. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a hégémonie, et si il y a hégémonie, ça veut dire que les mecs ont la main sur le net, et ça va être la merde. Et je crois que c'est déjà suffisamment la merde actuellement.
C'est clair.
Pour pas, si vous vous rendez pas compte de ça, et que si vous faites pas un minimum d'efforts pour utiliser autre chose, sachant en plus les qualités de Firefox aujourd'hui, franchement, venez pas chialer plus tard, hein. C'est aussi simple que ça. Là, actuellement, il y a un gros push de monsieur Google pour virer par exemple les cookies tiers. Donc c'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, en fait, c'est pas du tout neutre. Le but, c'est de mettre en place la technologie de demain qui permettra de vous fliquer tranquillement, parce que je vous rappelle que leur métier, c'est d'avoir le plus de data possible sur vous pour vous vendre de la pub. Donc il y a pas de photo, il y a pas de surprise. Quand les mecs ont l'impression qu'ils font un good move et qu'ils sont gentils avec toi, généralement c'est pour te piquer un truc de l'autre main. Donc voilà, en tout cas, pour revenir sur notre ami Chromium, Microsoft a fait beaucoup d'efforts pour virer toutes les partie Google en fait du moteur de Chromium, et pour pouvoir mettre les siennes, évidemment, on n'est pas non plus complètement dupe, mais ça fait bizarre de dire ça en 2020 quand on fait de l'informatique comme moi depuis les années 80, mais aujourd'hui le plus gentil des deux, ça reste Microsoft, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ils sont pris un gentil procès aussi il y a des années de ça dans la gueule, et que maintenant ils font quand même très attention. Donc j'espère qu'un jour ça tombera sur la tronche de Google pour les obliger un petit peu à se calmer.
On peut rêver.
Mais voilà, c'est pas encore fait. Par contre, j'imagine qu'ils doivent pas être pour que la Miss Warren devienne présidente des États-Unis, parce qu'elle les a dans le collimateur assez sévèrement, et pour des bonnes raisons, j'ai envie de dire, malheureusement. D'ailleurs, elle a tout le monde dans le collimateur comme ça. Elle a elle a que des copains. Mais bon, en tout cas, j'ai installé la bestiole. Si vous attendez une update dans Windows 10 pour cette version de Chromium, attendez, vous allez risquer d'attendre longtemps, donc vous pouvez le télécharger directement. Il y a un lien dans la news que je vous link avec ce papier. Et ça s'installe et ça remplace le Edge classique. Et après, ça fait un portage automatique de vos extensions s'il trouve des correspondances évidentes. Moi, ça a très très bien marché. Et puis derrière, il va vous demander de récupérer vos bookmarks, enfin, les trucs classiques, quoi. Et pour l'instant, le résultat est plutôt satisfaisant, même si bah du coup, je vous dis, moi, ça me fera pas changer mon baril de Firefox, mais j'ai l'impression d'être un disque rillé à ce niveau.
Tu n'es pas le seul. Allez, on passe du côté de la culture. J'ai envie de vous parler d'une nouvelle série sur HBO qui est disponible aussi en France sur OCS. Ça s'appelle The Outsider. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas?
Absolument pas.
Donc The Outsider, c'est une série, c'est une mini-série en vérité américaine, adaptée donc d'un roman, du roman du même nom de Stephen King. Ça a commencé le 12 janvier dernier, ils ont diffusé les deux premiers épisodes d'emblée. Alors c'est une série assez étrange, ça commence comme une enquête criminelle classique, on retrouve le corps d'un gamin en fait avec des marques de morsure, de la salive, enfin un truc assez glauque, et on tombe assez rapidement en fait sur un suspect qui est ce qu'on appelle le Little League Coach, donc c'est le coach, tu sais, de la petite équipe des jeunes de baseball.
D'accord.
Qui est incarné par Jason Bateman. Le flic qui mène l'enquête au détective, c'est Ben Mendelsohn, que moi j'aime beaucoup, qui était Talos dans le MCU, donc qui joue le rôle du détective Ralph Anderson, et qui est convaincu, archi convaincu, qu'il s'agit bien donc de Terry Maitland, le personnage incarné par Jason Bateman. Du coup, ça se complique un petit peu, évidemment, comme on s'en doute, parce qu'en fait, on retrouve assez vite une vidéo de ce Terry Maitland à l'autre bout du comté, au moment où est supposé avoir eu lieu le meurtre. Donc on se dit, mais c'est pas possible d'être à deux endroits en même temps. Et puis finalement, bah, très vite dans la série, hein, je vous spoil rien, le personnage de Terry Maitland se suicide en fait.
Ouf.
Sous la pression.
Nice.
Et donc, c'est là que le flic se dit, peut-être qu'on est passé à côté d'un truc là. C'est pas normal, il se passe quelque chose. Et pendant les deux premiers épisodes, on a deux ou trois plans sur un personnage un peu bizarre qui a l'air d'avoir un visage déformé, qui est sous une capuche avec un hoodie, et qui traîne un peu autour des lieux de crime en fait. Donc on sait pas trop qui c'est encore, mais on se doute qu'avec Stephen King ça va forcément un moment basculer dans l'horreur ou dans le fantastique. Donc c'est plutôt chouette, c'est très très lent, c'est très posé, il y a un petit côté trop détective dans le traitement, mais en plus réussi, si je peux me permettre. Alors a priori ça n'a pas beaucoup plu aux fans du roman qui trouvent que l'adaptation est un peu trop libre. Moi personnellement, j'ai jamais aimé Stephen King, et j'ai pas lu le bouquin, donc ça me va très bien.
Oh.
Voilà, ça s'est fait, je vais me faire des amis, venez me parler dans les commentaires.
Oh.
Et donc, bah voilà, ça a été développé par un monsieur qui s'appelle Richard Price. Alors Richard Price, c'est peut-être pas un nom qui vous dit grand-chose, c'est un scénariste assez connu à Hollywood, et c'est aussi un romancier. Il a bossé notamment pas mal avec David Simon sur The Wire, sur The Night Of et sur The Dutch, plus récemment. Donc c'est un monsieur qui sait écrire, et je vous confirme que c'est vraiment, enfin voilà, c'est très posé, il y a vraiment une patte visuelle qui est très très intéressante. Forcément, j'adore Ben Mendelsohn, donc ça me fait plaisir de le revoir, d'autant plus que là il est dans un rôle vraiment, c'est un personnage assez fragile, en doute, et c'est vraiment très intéressant de voir aussi un Jason Bateman dans un contre-rôle, on va dire, assez, enfin on l'avait déjà vu dans un rôle un peu similaire dans Ozark, mais enfin bref, très bon casting, très bonne réal, on verra où ça va. C'est une mini-série, donc on espère que ça va pas se terminer sur un gros cliffhanger en disant ah en fait on vous avait menti, il y a une saison 2. Donc voilà, 10 épisodes prévus, les deux premiers sont disponibles donc a priori aussi sur OCS, et ça devrait sortir normalement, si je dis pas de bêtises, toutes les semaines. Le prochain épisode, c'est ça, c'est le 19 janvier, donc c'est quoi, c'est vendredi, dimanche, c'est début de la semaine prochaine, voilà. Donc si vous voulez suivre une bonne série d'enquêtes avec un petit côté fantastique, même si on sait pas trop encore où ça va pour le moment, je vous recommande donc The Outsider. On passe du côté de la tech avec la grosse alerte de la semaine, puisque Windows 10 s'est vu mettre un petit taquet par la NSA.
Carrément, ils sont comme ça, eux. Voilà, la NSA qui fait des petites
alertes. Ce qui est assez rare, hein, parce que d'habitude, la NSA ferme sa gueule et profite justement de ses failles pour voilà. Vous surveiller. Là, ils se sont dit, non, ça va trop loin, on va en parler quand même.
Ah bah là, ça va prendre l'eau, les gars, et ça nous arrange pas, surtout que tout le monde va être au courant. Non, celle-là, on l'a dit. Donc, en fait, je vous ai juste mis le lien de l'article qui explique la totalité du bordel, et particulièrement la réaction de la NSA. C'est un lien de chez Wired qui est pas mal complet sur l'histoire. Nous, ce qu'on veut juste vous dire, les amis, si vous avez des gens, si vous, vous êtes sous Windows 10, blablabla, faites le patch maintenant.
Tout le temps.
Normalement, ça a été patché cette semaine automatiquement chez la plupart des temps, si vous avez la feature activée. Si vous n'avez pas la feature activée, bah, vous allez vous chercher dans votre petit menu les updates, les mises à jour en bon vieux français, et vous allez voir, alors un KBD, je l'ai plus sous, j'ai plus le nom en tête, mais il y a une mise à jour qui va être présentée à vous obligatoirement. Vous la faites, vous ne posez pas de questions, vous redémarrez votre machine et vous, vous continuez à faire ce que vous étiez en train de faire tranquillement, puisque là, vous, ça y est, vous êtes protégé. C'est une faille assez violente dans le sens où vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas une d'aussi bas niveau, donc c'est pour ça que tout le monde s'est excité autour de ça. Nous, notre seul rôle dans notre petit podcast, c'est de vous dire de patcher et surtout de faire patcher et de vérifier que tout le monde a patché autour de vous. Si en plus des gens viennent installer Windows 10 et n'ont pas encore fait tous les patchs, etc., c'est vraiment le moment de leur dire de prendre le temps de le faire, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais Windows 7 est en fin de vie, il y aura plus, non plus de patch, etc. Mmh. Donc il y a pas mal de gens qui vont switcher de Windows 7 à Windows 10 ces derniers jours, et puis dans les jours prochains. Mais parfois, quand tu as l'install, bah, il reste encore toute une salve de patch à mettre en place derrière. Il y a pas mal de gens qui se disent ah, ça va attendre, ça m'a déjà super saoulé de faire la migration, là, je vais attendre. N'attendez pas, voilà, non. C'est tout. Faites-le maintenant, sinon vous allez vraiment regretter potentiellement, puisque apparemment elle est déjà exploitée dans la nature. Donc voilà, faites votre travail. C'est comme si on vous laissait rouler avec une roue crevée, mais il faut pas, c'est tout. Alors, il faut changer cette putain de roue, donc là c'est pareil, patcher maintenant.
Voilà, c'est le KB4528760 pour ceux qui veulent tout savoir.
Toujours des noms poétiques sur les patchs.
Bah écoute, ouais, mais au moins c'est efficace. Allez, on termine cette section tech avec j'ai envie de dire, et tu l'as dit aussi d'ailleurs dans la conduite en gros et en gras, les fabricants de télé qui se mettent enfin en marche contre le motion smoothing, cette horreur sans nom.
Qui est leur œuvre, qui est leur invention.
C'est vrai en plus. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques rapidement ce que c'est en fait pour les gens qui ne connaissent pas le
motion smoothing? C'est une espèce de techno que les mecs avaient décidé de mettre en place parce qu'ils trouvaient que c'était une très bonne idée pour fluidifier les mouvements sur les écrans LCD, et parce que il y a un mec quelque part un jour qui s'est dit putain c'est quand même vachement mieux, les footballeurs sont plus comment dirais-je, ils glissent sur la pelouse, c'est magnifique, on va en mettre partout. Évidemment, c'est de la merde en vrai, puisque il y a des gens en plus qui s'y sont fait, qui adorent ça. Donc c'est pour ça que, en plus, tu vois, cette planète doit brûler, car ces gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils ne regardent pas la réalité. Ils regardent un truc qui est trafiqué au dernier degré. C'est de l'interpolation en fait entre les mouvements. Ça fait du coup des effets assez bizarres sur les déplacements de caméra. Le but en fait à la base, c'était qu'au début de la technologie du LCD, etc. Par exemple, un mouvement de caméra devant une grille, une barrière, une grille de parc, etc. Ça donnait des effets de saccade qui était pas terrible.
Il y a du motion blur en fait, c'était pour lutter contre ce motion blur qui fait partie en fait de l'art ciné quoi. Le ciné c'est du 24 images secondes, 25 images secondes.
Ça déconnait en fait, c'était assez chiant avec tout ce qui était contenu de sport, live, images. Donc il y avait ce truc à la base, ça venait d'un bon sentiment entre guillemets, les mecs se sont dit on va essayer d'améliorer ça.
L'enfer est pavé de bonnes intentions, voilà. Mon cher Caf.
On venait du cathodique. Ah c'est bien, j'aime bien quand il nous fait des classiques. on venait du cathodique où ce problème n'existe absolument pas, et les gens se sont dit on va faire ça. Alors le problème c'est que si vous laissez ça activer sur un contenu ciné, ça vous donne cette espèce d'effet dégueulasse de mater, au lieu de vous mater le dernier Marvel, vous matez une telenovelas brésilienne.
On appelle ça le soap opera effect d'ailleurs.
Exactement, on a vraiment l'impression que tout est bizarre, tout est beaucoup trop lissé, les mouvements sont beaucoup trop chelous. Bref, c'est dégueulasse. D'ailleurs il y a des stars qui ont pris le parti de faire des vidéos un peu rigolotes pour vous faire désactiver cette merde. Je crois que même Tom Cruise avait fait une vidéo,
tout à fait,
et
ouais.
Pourtant d'habitude je ne dis pas beaucoup de bien de cet homme, mais là j'étais obligé. Il y a pas mal d'acteurs qui ont pris position pour dire mais regardez mon truc, mais désactivez ce truc. Donc les fabricants de télé au CES 2020, c'est un des trucs les plus intéressants qui a été annoncé. Ils ont annoncé qu'il y allait avoir une feature dans toutes les télés maintenant, en tout cas chez LG, Vizio, Panasonic, mais à mon avis les autres vont suivre, qui va s'appeler tout bêtement le Film Maker Mode, pour virer tout le post-processing de ce truc-là et avoir le contenu comme il doit être regardé sur votre télé. Donc là, vous me dites « Oh, mais chiant, va falloir changer de télé et tout ». Non, en fait, déjà, vous pouvez d'ores et déjà désactiver, quelle que soit votre télé, cette saloperie. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est équivalent au Filmmaker Mode sur quasiment toutes les télés LCD disponibles actuellement, ou OLED, etc., c'est assez simple. Elles ont quasiment toutes un mode jeu, ces télés-là. Parce qu'évidemment, c'est parfaitement incompatible avec des jeux vidéo. Parce que c'est dégueulasse avec les jeux vidéo ce genre de mode de smoothing là. Donc ils ont tous un game mode qui désactive quasiment tous ces filtres. Normalement moi sur ma LG ça désactive absolument tout et je regarde tous mes contenus en game mode tout bêtement et ça marche très très bien. Donc vous pouvez faire exactement la même chose et vous allez retrouver un rendu normal pour vos films et d'un coup vous allez plus avoir cette espèce de rendu mou du genou absolument horrible qui en plus peut donner un peu peut rendre certaines personnes gerba parce que comme tout est bouge mais pas vraiment au rythme où ça devrait bouger, il y a des gens qui réagissent assez mal à ce truc là. Bref, c'est le motion smoothing, c'est une des pires inventions qu'on a eu sur ces écrans LCD. D'ailleurs c'est pour ça qu'on les a pas du tout hors, enfin sur nos moniteurs normalement ça n'existe pas si je dis pas de bêtises, bon, si ça existait pas longtemps. Donc voilà, vous pouvez changer ça et aller en profiter. Donc normalement ça devrait arriver en 2020 sur toutes les marques que j'ai citées, mais à mon sens ça sera un petit peu partout, ou en tout cas ça sera intégré peut-être avec des noms différents chez les autres, mais je doute que le motion smoothing vive encore très longtemps, en tout cas par défaut.
Ça c'est une bonne nouvelle. C'est la fin de ce 116e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. On va essayer de se poser un peu ce week-end. Moi, j'ai une semaine d'enfer, je sais pas toi, mais moi, je ferais bien un petit dodo, là.
Ouais, mais elle est pas terminée, mais j'ai fait mon premier vrai dodo, là, c'est la nuit dernière, hein, pour ceux que ça intéresse. Je sais que vous êtes inquiets de notre santé, c'est bien, c'est gentil. C'est pour ça qu'il faut pas oublier notre Patreon, les gars, parce que vous c'est savez, ce que sinon, c'est compliqué. Non, mais bon, blague à part, je vais finir de mater, je pensais finir de mater une série dont j'ai failli parler cette semaine. Qui est un dessin animé absolument incroyable, mais aussi incroyable de violence, donc absolument pas pour tout le monde, qui s'appelle Blade of the Immortal, qui est un remake en fait. Mais j'en parlerai en mars, quand ça sera terminé, car ça part sur Prime Video, et moi j'étais persuadé que la série elle était terminée, tu vois. Donc j'ai bingé un peu le truc pour m'arrêter comme un débile sur un cliffhanger horrible. Et là j'ai regardé le calendrier et j'ai fait genre merde. Donc voilà, Blade of the Immortal, très très bien, absolument pas pour les enfants, mais c'est magnifique. Dans l'art graphique, hein, oui. Parce que sinon ça peut être assez moche. Enfin, je veux dire, il se passe des trucs horribles. Voilà, je suis obligé d'attendre mars. Donc, je vais trouver un autre truc à binger ce week-end pour me venger du coup.
Ça marche. Allez, à la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.